La danse des mots, Yvan Amar.
Bonjour, la danse des mots avec aujourd'hui le dernier volet de notre série consacrée à la langue alsacienne en partenariat avec la DGLF-LF, Délégation Générale à la langue française et aux langues de France. Alors, c'est à la culture en langue alsacienne qu'on s'intéresse aujourd'hui parce que c'est vraiment là que se concentre toute la valeur de la langue. On a vu hier que l'alsacien était une variante de l'allemand. Sa singularité, elle se marque essentiellement à l'oral. Et une culture orale, qu'est-ce que c'est? C'est une culture de tout ce qui passe par la bouche, c'est-à-dire essentiellement la gastronomie et le théâtre. Alors bien sûr, il y a aussi les contes, les légendes, les berceuses, mais surtout le théâtre, parce qu'en alsacien, il est encore extrêmement vivant. Attention, il ne s'agit pas du tout d'un divertissement de l'élite, c'est un théâtre très populaire, comique le plus souvent, proche de la farce même, et qui garde une belle vigueur avec un public nombreux. Et voilà une excellente façon de contribuer à la vivacité de la langue et une façon de la rendre désirable. Alors, Roger Siffert, depuis plus de 40 ans, est un passeur de culture alsacienne, un homme de théâtre. Et en 1984, il a ouvert la choucrouterie. Bien entendu, c'est là que nous nous sommes rendus.
En marche, la truffe humide. En marche, politique, mon cul.
Ni gauche, ni droite, ni vert, ni rouge, on veut tourner maintenant.
En marche, politiquement, on mange.
Sucrage dans la soupe, nage avec le courant.
En marche, politiquement, on mange.
Un nouveau deal, un vieux tuyau. C'est vraiment pas nouveau.
Faites semblant de croire et vous croirez, suffit d'y croire. Just trust in me. Faites trahou émir. Ayez confiance.
La choucrouterie à Strasbourg, c'est un théâtre, mais c'est aussi un restaurant. C'est là que nous sommes, Lucie Bouteloup et moi, et quelques autres, et toute l'équipe du théâtre de Roger Siffert, qui vient de donner non pas une pièce, mais deux. Puisque nous avons assisté à la pièce en français, on se promet bien sûr d'assister demain à la même pièce en alsacien. Une pièce qui s'appelle comment, Roger Siffert? En marche, à marche, prononcez ça à l'alsacien.
C'est un titre bilingue, ça s'appelle En marche pour les uns et En marche pour les autres. Sauf qu'En marche en alsacien, ça veut dire c'est foutu, mais en traduction littérale, ça veut dire tu l'as dans le cul. Donc en marche, c'est le même mot, mais qui n'a pas tout à fait la même signification, voilà.
Donc vous faites un théâtre de parodie politique à la manière des chansonniers, vous considérez comme un chansonnier?
Chansonnier, c'est une expression très française. Nous, on participe plutôt du ce qu'on appelle, nous, le cabaret rhénan, qui est une tradition qui existe depuis toujours, pratiquement depuis Sébastien Brandt, la Nef des Fous. En fait, c'était le premier cabaret. Depuis le papa du cabaret alsacien, qui était Germain Muller, qui avait ce cabaret du Barabli, qui a fonctionné pendant 40 ans avec 80 000 spectateurs par an. Et on est un petit peu ses enfants. Mais il faut quand même que je vous précise qu'en Alsace, il y a au moins une quinzaine de cabarets satiriques. Je veux dire que le cabaret satirique, c'est une des... C'est un mot un peu grossier comme ça, une des spécificités de l'Alsace. Même dans les villages, avec des troupes d'amateurs, les villageois écrivent des sketchs pour se moquer de leurs maires, de leurs élus, et de faire de la satire. C'est une espèce de catharsis qu'on peut faire, c'est une espèce de façon de rire aussi pour pas pleurer, et une façon aussi de se démarquer des voisins, de se démarquer géographiquement des Allemands, des Lorrains, des Suisses.
Et parce qu'eux, ils n'ont pas ça.
Non, eux n'ont pas ça, et le cabaret satirique n'existe nulle part dans l'Hexagone. Il n'y a que en Alsace et un petit peu en Moselle qu'on trouve cette forme de dérision satirique, au point où j'avais demandé à la ville de Strasbourg si on pouvait pas faire reconnaître le cabaret satirique rhénan par l'UNESCO. Dans l'Hexagone, il n'y a que dans l'Est qu'on trouve cette façon de, à la fois de chanter, de danser, de faire des sketchs, d'être bilingue ou trilingue ou bilingue, et de se moquer de tout et de tout le monde.
Donc vous êtes coulé dans une tradition que vous connaissiez bien. Vous avez des souvenirs, Roger Siffert, de vous, petit, allant assister à des spectacles de cabaret rhénan comme celui que vous animez aujourd'hui?
J'ai commencé dans ce cabaret de Germain Muller. Alors, pour l'anecdote, son cabaret à Germain s'appelait le cabaret du Barabli. Ça mérite une explication parce que ça explique aussi l'histoire de l'Alsace. Pendant la guerre de 14-18, les Alsaciens étaient donc allemands de force. Et donc quand les soldats alsaciens étaient faits prisonniers par l'armée française, du fait que ce soit d'anciens Français ou des Français de nature, ils avaient un meilleur traitement au niveau de la bouffe, au niveau de la boisson. Les gens de l'autre côté du Rhin, donc du pays de Bade, qui ont pratiquement la même langue que nous, pratiquement les mêmes traditions que nous, etc., ont très vite compris que s'ils se faisaient passer pour des Alsaciens, ils avaient droit à de la meilleure bouffe, à plus de clubs, enfin je sais pas quoi, tous les meilleurs traitements. Donc ils cachaient leurs papiers et ils disaient qu'ils étaient Alsaciens. Et c'était très difficile de savoir et de faire la différence entre les deux. Et donc il y a un curé qui s'appelle l'abbé Wetterle qui avait trouvé un test pour arriver à séparer le bon grain de l'ivresse. Donc il montrait un parapluie. Et les Allemands, quand ils leur demandaient qu'est-ce que c'est, ils disaient Schirm, comme Regenschirm en allemand, donc le diminutif de Schirm. Et les Alsaciens, quand on leur montrait l'outil, ils disaient un parapluie, qui vient du français parapluie. Et donc c'est comme ça qu'on savait que c'était des Alsaciens et non pas des Badois. Et le parapluie de Germain, à l'époque, il est né après-guerre, c'était un parapluie rouge avec un empiècement noir. Parce qu'il y avait, après la guerre, pas beaucoup de solutions. Soit on était dans la résistance gaulliste, soit on était communiste. Et Germain avait choisi la couleur rouge. Et il a fait 40 ans, ça c'est aussi typique de l'Alsace, il a fait 40 ans comme cabaretiste satirique. Mais il était pendant au moins 20 ans adjoint au maire de Pflimlin et de Rudloff. Donc il sortait du conseil municipal. Et ensuite il allait confier ses collègues sur la scène de son cabaret. C'est là que j'ai fait vraiment mon apprentissage. J'étais tous les soirs derrière le rideau. Je voulais savoir comment ce type faisait. Il arrivait sur la scène, il faisait des très grands yeux. Il regardait comme ça le public et il disait bonsoir et bonsoir aussi aux Allemands. Et le public était couché par terre de rire. Et chaque soir, il réinventait l'actualité. C'est vraiment une tradition de satire, de dérision et d'autodérision.
Et ça s'est beaucoup répandu, par exemple, dans les villages. C'est pas uniquement une tradition des villes.
Pas du tout, non. Il y a des villages qui jouent à guichet fermé pendant une dizaine de représentations.
Mais là, c'est impressionnant, votre théâtre, quand même, Roger Siffert, parce que j'ai vu que vous dites que c'est complet pour les 2 mois et demi qui viennent, ou peut-être les 3 mois qui viennent. Et là, il n'y avait pas une place de libre.
Oui, avec la revue satirique, on fait, rien qu'à la Choucrouterie, on fait pratiquement 15 000 spectateurs, quoi. L'idée de fou furieux que j'ai trouvé, c'est de faire les deux revues en même temps, dans une salle en français et dans l'autre salle en dialecte alsacien, avec les mêmes comédiens qui cavalent toute la soirée d'une salle de l'autre. Et cette année, j'ai inventé une saloperie, je les ai forcés à chanter en alsacien, y compris la fille qui vient des Hautes-Pyrénées, qui chante en alsacien avec l'accent du sud. Et donc, ça permet de faire des gags superbes. On a un double plaisir, parce que quand on est bilingue, on peut dire 2 fois plus de conneries. Et donc, quand on joue bilingue, on peut avoir 2 fois plus de plaisir aussi.
Salut, Bissameux.
Salut.
Roger Siffert m'a forcé à venir en salle alsacienne chanter une chanson en alsacien. Sauf que moi, je suis Azebok. Je viens du sud, de la Limousin. Haute-Pyrénées. Sébastien, s'il te plaît, viens avec moi.
Ah non, moi j'ai déjà fait.
Oui, mais ils me font peur. C'est donc avec un plaisir non dissimulé que nous allons vous interpréter un traditionnel du répertoire. Au les cœurs. De Hans Im Schnokelor. C'est qui ça déjà?
Alors c'est un gars qui s'appelle Hans. Et alors il vit dans un trou de moustique.
C'est la crise de l'immobilier, quoi. Reprenons. De Hans Im Schnokelor et se va servir. Youpi. De Hans Im Schnokelor et se va servir. Un Wasserhette des Villernet, un Wasserville des Eternet. Ah, là j'ai compris. Parce que le type il avait commandé sur internet. Où c'était pas arrivé. À cause que un trou de moustique, c'est pas une vraie adresse.
Alors donc, c'est une originalité à vous, Roger Siffert, d'avoir inventé ce double plateau.
Le double plateau, c'est ce qu'on appelle, nous, une schnapps idée, une idée alcoolo. Pendant les tout premières revues qu'on a fait, on mélangeait les deux langues. Mélanger les deux langues, c'est un gros problème, parce que quand on n'est pas bilingue, on est exclu, on est viré. Donc si on n'est que francophone, quand il y a un sketch en alsacien, les autres rient, et c'est très désagréable. Ensuite, on a fait un mélange, on faisait un soir en français, un soir en alsacien, dans la même salle. Et c'est là que je me suis dit, mais pourquoi ne pas exploiter cette idée de faire les deux en même temps? Mais c'est un casse-tête épouvantable. Le minutage doit être d'enfer, parce que si, je prends un exemple, si un public... francophone, par exemple, rit plus que le public dialectophone, il y a des décalages. Donc forcément, le comédien attendu n'est pas prêt de l'autre côté. Donc il y a des trous. Donc on sait qu'il y aura des trous dans la revue, et chacun prévoit des vannes, une, je sais pas quoi, une pirouette, une blague, enfin une connerie, pour compenser le manque de temps jusqu'à ce que le comédien arrive.
Alors qu'est-ce qu'on voit quand on va dans votre théâtre, La Choucrouterie, Roger Siffert? Est-ce que c'est le même texte qui est traduit ou adapté? Est-ce qu'il y a une grosse différence, par exemple, de contenu entre ce qu'on entend et ce qu'on voit en alsacien et ce qu'on entend et ce qu'on voit en français?
Il y a une bonne partie des sketchs et des chansons qui sont les mêmes thématiques, mais dans d'autres langues. Il y a une partie de sketchs qui sont spécifiquement français, d'autres qui sont spécifiquement en dialecte. Par exemple, des sketchs de nonsense complet, un peu ce que nous on appelle en référence à Karl Valentin, le bavarois, qui sont vraiment des sketchs sur l'absurde. Ça, c'est typiquement pour l'alsacien. Le public...
Est-ce que c'est intraduisible? En français, ça passerait pas.
Le public francophone n'a pas tellement le sens du nonsense. Les Anglais l'ont, les Allemands l'ont, mais pas tellement en France. Par contre, le public francophone aime beaucoup la politique, aime beaucoup l'esprit français, alors que l'alsacien, du fait de la langue, c'est une langue extrêmement savoureuse, grossière, vulgaire, énorme. Le même sketch, il est 10 fois plus énorme en alsacien qu'en français. Parce qu'il y a une espèce de piment, de saveur et de rire qui est lié aux mots, plus que au sens, parfois, plus que dans la signification. C'est pareil, bon, ça s'appelle En Marche, là. Mais la cabaretiste Huguette Dreykos avait fait ce parallèle. Quand on dit en français le cul, bon, c'est le cul, hein, c'est rien de... Mais quand on dit en alsacien, oh, c'est quelque chose de... On voit quelque chose d'énorme, de volumineux, de rigolo. Donc la langue elle-même, et c'est, parce que c'est une langue qui n'est pas...
C'est une langue farce, vous voulez dire?
C'est une langue qui aime le rire, qui aime se moquer. C'est une langue qui aime la provoque, qui aime l'humour beaucoup. Et c'est une langue refuge en même temps. Et les gens d'Alsace, parce qu'il y en a encore près de 60% qui sont bilingues, hein, ceux qui savent encore l'alsacien veulent absolument voir la version alsacienne. Mais de plus en plus de gens maintenant viennent voir les deux revues pour voir la différence. On ne peut pas les comparer. On ne peut pas comparer deux langues, on ne peut pas comparer deux séries de comédiens. C'est sûr que la revue française, elle participe beaucoup du stand-up, elle participe beaucoup de Internet et des choses comme ça. Ce que le public dialectophone n'a pas tellement envie d'entendre. Par contre, il a vraiment envie d'entendre des choses savoureuses ou la langue. Parce que je fais un effort pour utiliser des mots savoureux, des mots qui parlent, des mots qui racontent, qui chantent, etc. Des mots qui donnent des images. Et c'est le principal avantage de la langue alsacienne, c'est qu'il y a un cinéma tout le temps. Mais la langue française est tellement précise, et elle est pour les choses politiques tellement intéressante, tellement piquante, tellement, elle peut être tellement salope, comme disent les Allemands.
Ils disent ça, les Allemands?
Ouais, salope, ouais. Donc, c'est vraiment une expression que les Allemands utilisent. Donc, on peut pas comparer les deux formes d'humour, on peut juste apprécier les deux, et enfin, tous les comédiens, on prend un plaisir énorme à aller d'un côté et de l'autre, parce que, Et chaque soir, on dit « Ah, les Français, ils sont bons, les Alsaciens, ils sont moins bons ». On commente le public avec les retours et les réactions des rires. La revue alsacienne était pratiquement complète jusqu'au 15 avril, à partir de fin décembre. Et alors, les gens, ils gueulent. On leur dit « Mais allez voir la française, elle est bien aussi ». Ça peut pas être aussi bien en français, voilà. Donc, ils sont absolument sûrs que c'est absolument impossible, alors que ce n'est pas comparable.
Quelle est-elle, cette langue alsacienne que vous utilisez, Roger Siffert? D'abord, est-ce qu'il y a une exagération au niveau de l'accent ou pas? Est-ce qu'il y a une façon de parler théâtrale avec ce théâtre, alors que vous n'appelez pas chansonnier mais cabaret rhénan, qui fait qu'on utilise la langue en grossissant le trait?
On grossit pas le trait, on utilise la langue comme toutes les langues du monde. On fait pas que du cabaret à la choucrouterie. Pour vous donner des exemples, j'ai traduit en alsacien avec des amis du Bernard-Marie Coltès, un alsacien, la nuit juste avant les forêts.
Bon, on va dire qu'il est strasbourgeois. Hein.
Oui, il est strasbourgeois. Donc on a traduit Coltès en alsacien pour montrer que c'était possible. On a traduit Thomas Bernhardt, le bavarois, en alsacien aussi.
Alors ça, qu'est-ce que ça veut dire? Vous avez traduit de l'allemand en alsacien?
Oui, ça je le fais très souvent, j'ai la chance.
Et donc il y a une grosse différence entre les deux?
Il y a une musique qui n'est pas la même. Et il y a un goût qui est pas le même, quoi.
Ça, c'est vraiment pas de la farce, Thomas Bernhardt. Ou c'est de la farce très grinçante. Mais en tout cas, c'est dramatique. Tout ne fait pas que rire.
Non, ça ne fait pas que rire, mais je voulais montrer que c'était possible dans cette langue-là. Moi, ce que j'aime bien, c'est l'ouverture sur le monde avec les langues, quoi. Tout enfermement, qu'il soit linguistique ou qu'il soit politique, me fait vraiment chier. Donc, tout ce qu'on peut ouvrir sur le monde, par le biais d'une langue, c'est absolument, absolument formidable. J'avais fait un festival qui s'appelait Babel. Donc le festival des langues, où on a créé des choses absolument extraordinaires. On a créé 24 gospels en alsacien. Tous les gospels traditionnels, tout ça on a traduit en alsacien, parce que c'est une langue qui permet justement d'avoir spontanément des images qui arrivent, quoi. L'alsacien, c'est du cinémascope, je peux pas dire autrement.
Mini, mini, maman, c'est un boum boum stand, un boum boum stand, un boum boum stand. Mina, mina, papa, c'est un Kohlefeld de rond, on schlöt mina mama auf der boum boum stand. Mini, mini, maman, c'est un boum boum stand, un boum boum stand. Mina, mina, Papa hat der Kohlfeld rund und schlöt mina Mama auf der Bum-Bum-Stand. Uni jetzt, Uni jetzt, Uni jetzt mit dir in Straßburg jetzt geh Jungfrau mi. Uni jetzt, Uni jetzt, Uni jetzt mit dir in Straßburg jetzt geh Jungfrau mi. Babala, babala, jetzt geht's los.
Roger Siffer vient de nous donner un bon exemple de la vivacité de la culture alsacienne. Mais l'alsacien n'est pas la seule langue régionale présente dans l'est de la France. En Lorraine, on entend le plat, une langue francique, assez proche de l'alsacien pour qu'il y ait intercompréhension, et néanmoins, il y a des accents et une histoire différente. Alors, cette langue a un beau festival pour l'illustrer, un festival qui fête son anniversaire. Vous savez dire bon anniversaire en plat ?
Schön Geburtstag, Mireille de Plate. Schön Geburtstag, c'est bon anniversaire. Et moi-même, je suis Hervé Atamanuc, je dirige le festival Mireille de Plate qui fête ses 20 ans exactement pendant ces mois, depuis le 20 mars. Donc nous sommes en plein temps, le festival.
Mireille de Plate, alors dites-nous un peu ce que ça veut dire, Hervé Atamanuc.
Tout simplement, nous parlons le plate. Alors Mire, nous, Rede, parlons et plate. Alors le plate, c'est quoi ? Eh bien, c'est la petite appellation, c'est le petit nom que les gens en Moselle, dans ce département de Moselle, à la frontière proche de Forbach, Sardumine, Beach, Saint-Avold, eh bien, parlent depuis maintenant plus de 1500 ans. Et en fait, on est linguistiquement sur du francique. Alors, qu'est-ce que le francique ? C'est la langue des Francs, tout simplement. Clovis, roi des Francs, on a appris ça dans nos écoles.
Et Courbetois, Fersicambre, ça vient de là.
Ça vient de là, c'est-à-dire qu'en fait, nos Francs qui sont devenus les rois de France, en fait, qui ont enfin la dynastie, parlaient pas le français, ils parlaient le germain, puisqu'ils venaient de Germanie. Et ils ont eu comme caractéristique, Clovis, et bien sûr par la suite Charlemagne, d'avoir beaucoup été installé sur ce secteur. Je le redis, on est vraiment à la frontière, on est là sur Sargumine, mais on pourrait aussi bien remonter un peu plus haut dans la géographie linguistique, puisque le Luxembourg, le Grand-Duché du Luxembourg, parle également le francique. Donc, autrement dit, quand on fait la fête du plat à Sargumine, on fait aussi des clins d'œil à nos voisins de l'autre côté de la frontière.
Donc, c'est une fête de la langue plate. Un festival qui s'articule autour d'une langue. Qu'est-ce qu'il propose, Hervé Atamanuc ?
Alors, la première caractéristique de ce festival, il y a 20 ans de cela, je crois qu'il a fallu pas mal de courage, au fond, aux initiateurs, dont je n'étais pas, d'ailleurs, mais qui étaient un peu dans un temps où, on dirait ça, pour simplifier, la langue était encore largement moquée. Vous savez, il y a toujours un peu cette tendance en France de dire, oh bon, c'est des patois, hein, c'est des espèces de sous-langues, des langues qui correspondent finalement à un territoire, mais voilà, on voit pas très bien l'intérêt de ces langues. Donc, il y a 20 ans de cela, l'idée première, c'était au fond de faire la fête, de dire cette langue a une existence, elle existe territorialement, mais elle existe au-delà du territoire et elle est finalement une capacité de traverser les frontières pour les Lorrains Il faut rappeler qu'on a 80 000 Mosellans tous les jours qui passent la frontière pour aller travailler au Luxembourg, pour aller travailler en Sarre, en Allemagne ou dans le Palatinat. Donc c'est énorme. Hein, tout
donc ils changent de pays, mais ils ne changent pas forcément de langue.
Ils changent de pays sans changer de langue et ils utilisent justement leur capacité bilingue pour travailler de l'autre côté de la frontière. Puisque de l'autre côté de la frontière, on ne va pas parler l'allemand standard, hein, on va parler le francique, et cette langue est effectivement donc le vecteur de cela. Et alors ce festival, finalement, il a débuté comme ça, avec une espèce de nécessité d'affirmer une réalité, et puis il s'est construit alors autour de poètes, autour d'auteurs, autour de musiciens, et ces artistes invités, très rapidement, quand je suis arrivé il y a une dizaine d'années de cela, j'ai dit c'est bien, mais il faut qu'on développe absolument des projets de ce qu'on appellera de l'éducation artistique, c'est-à-dire de faire travailler des artistes sur le temps long, c'est-à-dire de demander par exemple à un poète de venir, de s'installer dans une école, de travailler avec les élèves, avec les profs, et de voir comment cette langue, au-delà de son aspect finalement ancien, est aussi une capacité de traverser les générations. Et donc ces 20 ans du festival, c'est tout à fait la clé d'entrée pour ces 20 ans, puisqu'on a décidé de ne pas regarder vers l'arrière, mais de regarder vers l'avenir.
Alors, sans nous décliner un petit peu toutes les entrées de ce festival, dites-nous un petit peu quels en sont les points forts. Qu'est-ce qu'on peut voir et qu'est-ce qu'on peut entendre donc pendant ce festival qui a commencé le 20 mars dernier, qui se déroule jusqu'au 20 avril pour sa 20e édition.
Alors, pour faire vraiment le clin d'œil au 20, au chiffre 20, qui nous semblait un beau chiffre rond, mais aussi un chiffre finalement, voilà, qui veut dans notre esprit dire beaucoup de choses, on a questionné des vingtenaires, on a questionné des jeunes qui ont 20 ans. Et on peut, en ce moment et jusqu'au 20 avril, voir une magnifique exposition photographique où nous avons 39 jeunes vingtenaires qui portent chacun un mot. On a demandé à ces jeunes quel était en plate, en francique, leur mot fétiche. Alors une fois qu'on avait éliminé les injures, une fois qu'on avait qu'on leur avait fait voilà travailler un peu le sujet, quoi. Eh bien là, on a fait de la psychanalyse, hein, parce que finalement c'est fascinant de découvrir les mots qu'ils ont choisis. C'est-à-dire souvent des mots secrets, quoi, des mots qui sont les mots de leur famille, les mots on va dire très très ancrés. Ça peut être un mot technique, hein. Finalement le tournevis, c'est-à-dire je trouve aussi. Alors le tournevis, c'est pourquoi? Ben alors parce que ben mon opa, mon grand-père, il me disait toujours quand j'étais gamin, ben va sur l'établi, va chercher le tournevis. Donc voilà, donc on a finalement un gamin comme ça, un jeune, un gamin pour moi, un vingtenaire qui est là avec son, très fièrement, qui porte comme ça ce mot fétiche auquel il est tellement attaché. Et ça montre, cette exposition photo, je la trouve vraiment très belle parce qu'elle montre au fond que nos langues, au-delà de l'usage.
Parce que c'est une exposition photo en
ça,
même
c'est
temps.
Une exposition, voilà, là pour le coup, c'est une exposition photo. De ces vingtenaires. On a vraiment voulu finalement se saisir de la langue par des biais différents.
Eh bien, du tournevis au tour de chant, il n'y a qu'un pas qui passe par le quetsch, quetschkaste, qu'on va entendre maintenant. Alors, il y a aussi du théâtre, de l'humour, des personnages assez typiques de ce folklore, au sens originaire du mot, hein, vraiment de cette culture populaire mosellane, lorraine, avec des personnages qui, de temps en temps, paraissent un peu niais, mais en disent peut-être plus que les autres. Cette espèce d'idiot du village qui dit la vérité en ayant l'air de dire des niaiseries, comment il s'appelle en Lorraine?
Alors, il y a bien sûr Gigas. Alors, Gigas, c'est Guy, hein, c'est le petit nom de Guy. Et Gigas in Amicus, c'est un des spectacles qu'on accueille dans le cadre du festival. Et finalement, c'est pas le hasard non plus, finalement, que ce personnage, effectivement, l'idiot, mais au fond, l'idiot dit beaucoup de choses, hein, dit beaucoup de choses chose de nos cultures aussi, de la, au fond, de la difficulté de s'identifier quand on est, bien sûr, français, qu'on parle une autre langue que le français, qu'on a été quand même, on a changé 5 fois de nationalité en 100 ans, hein. On est quand même dans des endroits où, à la...
5 fois.
5 fois. Ouais. On a changé 5 fois de nationalité en 100 ans, ce qui donne d'ailleurs des blagues, hein. Il y a des, on a beaucoup de blagues à ce sujet.
Alors, on voit bien cette tendance à l'autodérision. Il y a beaucoup de spectacles humoristiques dans ce festival, donc sur cette langue plate, cette langue mosellane, lorraine, qui est quand même très proche de ce qu'on appelle l'alsacien.
Alors d'abord, l'humour, oui, il y a beaucoup d'humour parce que je crois, je pense vraiment que l'humour, au fond, est une forme presque de défense. Les gens utilisent vraiment l'humour sous cette forme-là, c'est-à-dire que ça nous permet, au fond, d'avoir bien sûr de l'autodérision sur ce qu'on est, sur la situation qu'on vit, mais finalement aussi de transmettre, parce que le théâtre ou les soirées, alors par exemple, on a aussi une soirée autour d'un auteur qui s'appelle Karl Valentin, hein, qui est un des grands auteurs qui a été donc adapté là pour nous en plate, et puis je pense aussi à une pièce de Ionesco. Alors vous voyez bien qu'avec du Ionesco dit en plate, alors c'est pas de l'humour au sens gaudriole du terme, mais on voit bien quand même cette connotation auquel on est attaché.
Alors il y a une diaspora de cette langue plate et du peuple qui la parle un peu partout, et notamment en Amérique du Nord et du Sud. Ouais. Est-ce que on en a l'écho parfois dans votre festival? Dites-nous un mot de ces régions où on parle le plate hors Lorraine, hors sol, quoi.
Oui, alors ça, c'est une des grandes surprises du festival. Je crois que les gens m'ont pris un peu pour un fou il y a 10 ans de ça, quand j'ai dit on va aller du côté de la Roumanie, parce que je savais qu'il y avait une diaspora roumaine et très très importante, hein, qui est une diaspora qui est partie au 18e siècle et qui s'est implantée là.
C'est pour ça qu'il y a du Ionesco cette année.
Exactement, voilà le lien avec Ionesco, vous avez tout compris. Mais c'est vrai que on pensait bien entendu à l'Europe centrale, parce que voilà, ce sont des migrants au fond qui se sont installés dans ces pays, qui ont conservé leur langue jusqu'à nos jours, et donc un peu comme pour le français, comme nos frères ou nos cousins québécois. Hein, il faut comprendre, quand on parle avec des Roumains en francique, ou quand on parle effectivement avec les principalement en Pennsylvanie en Amérique du Nord, eh bien, on a affaire finalement à des lointains cousins qui sont partis il y a 10-12 générations, et donc on se comprend, c'est quand même quelque chose de très fascinant. Et le plus grand de diaspora, le plus grand nombre de locuteurs sont au Brésil. Alors ça, c'était la grande surprise, et puis effectivement, cette année encore, nos cousins brésiliens viennent à Sarreguemines, sont présents pendant le festival, et c'est vrai qu'on a finalement, au cours des années, réussi à avoir des liens très très, voilà, de très grande proximité, démontrant finalement que à l'autre bout du monde, la terre est plate.
Eh bien, nous allons nous quitter en écoutant la schlappe sauvage, non sans vous demander, Hervé Atamaniouk, ce que c'est que cette expression-là, la schlappe sauvage qu'on entend déjà là, qu'est-ce que c'est?
Alors, la schlappe sauvage, la schlappe, c'est, je crois que tout Mosellan connaît ce mot-là, c'est le chausson. Alors, c'est donc un chausson sauvage. Là, je vous laisse écouter maintenant un peu de cette musique.
Longue vie donc au francique et à l'alsacien, et merci encore à tous ceux et celles qui nous ont accueillis chaleureusement dans leur langue et dans leur culture, à Sarreguemines, à Strasbourg, à Colmar, à Haguenau, etc. C'était la 3e émission consacrée aux langues régionales de l'Est de la France, une série réalisée en partenariat avec la DGLFLF, la Délégation Générale à la Langue Française et aux Langues de France, toujours pour la Danse des Mots, une émission proposée par le réseau Canopé et RFI, Véronique Durand, Yann Leny, Lucie Bouclou, Yvan Hamar.
Si tu passes par ici, tu es le bienvenu, et je te dirai welcome. Même si c'est par hasard ou par nécessité, moi je te dirai welcome. C'est là plein d'espoir.